je choisis donc d'élargir la focale et de voir comment Diderot se situe dans le spectre des positions théoriques possibles sur une question très simple, qui est très simple et très complexe, qui est la question des rapports de l'art et de la morale. Je suis rentrée dans la question du colloque, les morales de Diderot, par la question de l'art. Ce point de vue, donc ce recul conceptuel, devrait permettre de mesurer l'originalité de Diderot par rapport aux auteurs qui l'ont précédé, mais aussi par rapport à notre contemporanéité, puisque ça faisait partie du cahier des charges que d'envisager ce point de vue. Je dirais donc que, première remarque, dans le spectre des positions théoriques possibles concernant les rapports de l'art et de la morale, Diderot ne défend ni un strict autonomisme, ni un moralisme radical. Je m'explique. Qu'est-ce que j'appelle un strict autonomisme ? Eh bien, c'est le point de vue qui consiste à dire que l'art n'a rien à voir avec la morale, que l'art n'a pas à moraliser et n'a pas non plus à être jugé d'un point de vue moral, que ce soit pour le louer ou pour le discréditer. Pour donner quelques exemples de ce strict autonomisme, on pensera tout de suite évidemment à Théophile Gautier, qui soutient dans ce qui a été le manifeste de l'art pour l'art, la préface à Mademoiselle de Maupin, que l'écrivain fait des poésies et des romans qui ne mènent à rien et qui peut et qui doit, en présence des plus graves intérêts, ne s'occuper précisément que de forme, de rythme et de style. Je cite simplement le passage très connu où il dit « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. On ne doit pas chercher à faire par l'art autre chose que de l'art, qu'il s'agisse de morale ou de politique. » Donc la fonction de l'œuvre dans ce contexte autonomiste radical, c'est de n'avoir pas de fonction, précisément. C'est Croce, par exemple, affirmant que, je cite, « l'art se situe au-delà de la morale », ou bien, évidemment, Oscar Wilde déclarant, je cite encore, « que la première condition de la création est que le critique soit capable de reconnaître que la sphère de l'art et celle de la morale sont absolument distinctes et séparées. » Le moralisme radical, à l'inverse, postule que la valeur d'une œuvre est fonction, et exclusivement fonction, de sa teneur morale ou de sa capacité de moralisation. Et évidemment, à l'inverse, sa valeur négative viendra de sa teneur d'immoralité ou de sa capacité de perversion. Alors, où trouve-t-on des positions aussi radicales soutenues ? Eh bien, Tolstoï, dans « Qu'est-ce que l'art ?», 1892, défend une forme particulièrement intransigeante de moralisme, mais on trouve ce type de moralisme radical de façon beaucoup plus contemporaine lorsque certains demandent le décrochage de la toile d'Hervé Di Rosa célébrant la fin de l'esclavage sous prétexte que ce serait du blackface ou bien lorsque les métamorphoses d'Ovid sont mises à l'index de l'Université de Columbia ou que des affiches de nus d'Edgon Schiele sont censurées à Vienne il y a 2 ans. Donc Diderot n'est en rien un moraliste radical. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il reconnaît une valeur artistique autonome, indépendante, et qu'il juge, notamment dans ses salons, selon des normes qui ne sont pas les normes éthiques ou politiques ou quoi que ce soit, mais qui sont les normes de ceux qui exercent le métier de peintre. Autrement dit, selon des normes internes à la peinture. Dans le cadre académique qui s'est développé depuis le XVIe siècle en Italie, puis qui s'est répandu au cours des siècles suivants dans toute l'Europe, eh bien, on s'intéressait à ce qu'on appelait alors les parties de la peinture. Les parties de la peinture, c'est quoi ? C'est l'invention, la composition, le dessin, la couleur et l'expression. Ces parties de la peinture ont été exposées notamment dans la table des préceptes d'Henri Testelin, en 1680. Donc, il était peintre de cour et secrétaire de l'Académie de peinture, justement. Et puis, une trentaine d'années plus tard, vous avez également un texte qui rend bien compte de ces parties de la peinture. C'est la balance des peintres de Roger de Pile. La balance des peintres, 1708, de cet autre artiste et secrétaire de l'Académie que fut Roger de Pile. Je vous signale au passage, parce que c'est amusant, mais en même temps c'est très instructif, qu'on trouve dans ce petit texte un tableau tout à fait insolite de notation des peintres en fonction de ces parties de la peinture. Alors, vous pourrez voir, par exemple, que Poussin obtient un 17 en dessin, c'est sur 20, mais seulement un 6 en couleur, que Lebrun obtient un 16 en expression et en composition, alors que Dürer ne dépasse pas 8 en composition et en expression et n'obtient qu'un 10 en dessin et en couleur. Bon. Cette notation, bon, nous paraît extravagante, étrange, tout ce que vous voulez, mais elle permet néanmoins de pénétrer le système propre des valeurs de cette institution académique qu'est l'Académie de peinture et de comprendre ce que ça voulait dire que peindre dans ce contexte-là. Ça voulait dire relever un certain nombre de défis que la peinture, en tant que peinture, se donnait pour tâche de résoudre. Alors, en sachant cela, on comprend bien, je ne vais pas vous lire tous les passages des salons, où vous retrouvez les mots que je viens de dire, expression, coloris, composition, etc. Le coloris est faux, X pêche par le dessin, la composition est bien ordonnée, etc. Vous retrouvez exactement tous ces termes. Autrement dit, Diderot reconnaît une valeur picturale propre, donc une valeur artistique qui, en matière de peinture, s'appelle une valeur picturale, dont il entend rendre compte dans ses salons, ce qui le tient bien à distance de toute forme de moralisme radical. Ça ne signifie pas pour autant que la valeur proprement picturale constitue pour Diderot toute la valeur d'un tableau. En tant que critique, il juge des œuvres en fonction de critères esthétiques, artistiques, on pourra peut-être discuter sur la différence de ces deux termes, mais aussi sur des critères, en fonction de critères extra-esthétiques. Il prend en considération des contenus éthiques dans l'évaluation des tableaux, et il compte souvent un défaut éthique comme un défaut artistique, je ne dis pas esthétique, mais artistique, et une qualité morale comme comptant pour la valeur artistique globale de la chose. Tout le monde connaît le blâme qu'il adresse à Boucher, et les louanges qu'il adresse à Greuze. Le premier, en peignant l'immoralité, la débauche ou la dépravation, je cite l'essai sur la peinture, pervertit le but des arts. Le second, se conforme à ce que, je cite encore, tout morceau de sculpture ou de peinture doit être, à savoir l'expression d'une grande maxime, une leçon pour le spectateur. Diderot fait donc du critique, j'allais dire, le représentant d'un ordre global à l'intérieur duquel valeurs esthétiques et valeurs éthiques sont étroitement liées, mais pas confondues. Liées. Hein. Je veux dire par là qu'il ne confond pas le beau et le bien. Hein. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, l'art, affirme-t-il, a une fonction et morale. Il doit, je vais donner quelques exemples pour enfoncer le clou, laisser sur la peinture, éterniser les grandes et les belles actions, honorer la vertu malheureuse et flétrie, flétrir le vice heureux et honoré. Ou bien encore, affirme-t-il que les artistes ont un devoir moral, là encore, dans l'essai sur la peinture, rendre la vertu aimable, le vice odieux, le ridicule saillant, voilà le projet de tout honnête homme qui prend la plume, le pinceau ou le ciseau. Les peintres de cet acabit sont d'ailleurs comptés parmi, je cite encore, les précepteurs du genre humain, les consolateurs des maux de la vie, les vengeurs du crime, les rémunérateurs de la vertu. à propos de la pitié filiale. Il écrit dans le Salon de 63 « Ne devons-nous pas être touchés de voir le pinceau concourir enfin avec la poésie dramatique à nous toucher, à nous instruire, à nous corriger et à nous inviter à la vertu ? Courage, mon ami Greuze, fais de la morale en peinture et fais-en toujours comme cela. » 3 ans plus tard, Salon de 67, il écrit encore « Auquel bien reviendrait aux hommes si tous les arts d'imitation se proposaient un objet commun et concouraient un jour avec les lois pour nous faire aimer la vertu et haïr le vice. C'est au philosophe à les y inviter, c'est à lui à s'adresser aux poètes, aux peintres et aux musiciens et à leur crier avec force « Homme de génie, pourquoi le ciel vous a-t-il doué ?» Donc, la finalité morale de l'art est, on le voit à travers ça, parfaitement légitime. Et elle légitime par là même la critique éthique, c'est-à-dire la critique qui laisse une place au jugement moral. Alors bien sûr, Diderot n'est pas seul dans ce sillon. L'idée selon laquelle la peinture doit instruire l'humanité est extrêmement active depuis, j'allais dire, Platon. Et elle demeure très active jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On en trouve des traces absolument incontestables dans les écrits des peintres eux-mêmes, des critiques, des théoriciens de l'art. C'est Félibien qui réaffirme Horace dans la préface de ses conférences. La peinture doit procurer l'instruction et le plaisir. Donc le plaisir et l'instruction, c'est ut vira dulci, ut pictura dulci. Je superpose ut pictura poesis et les trois finalités de la peinture, plaire, émouvoir et instruire. Si je prends Coppel dans l'excellence de la peinture, vous trouvez aussi l'affirmation que l'utilité de cet art est d'animer les hommes aux vertus morales. Et encore en 1792, donc à la toute fin du siècle, le dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure continue à affirmer que l'art a des dimensions morales et sociales et qu'il n'est pas seulement recherche du plaisir et de l'agrément. Vous retrouverez encore ça, évidemment, et plus encore réaffirmé chez David, chez le peintre David. Le devoir du peintre est de représenter, je cite, des traits sublimes d'héroïsme et de vertu. Bien. Donc, si je résume ce premier point, Diderot affirme, un, que l'art peut produire des effets moraux. Autrement dit, qu'il a une efficacité pragmatique. Que cette efficacité pragmatique peut être positive ou négative. Que la finalité morale de l'art est souhaitable, quoi qu'elle soit non obligatoire. C'est-à-dire l'art peut moraliser ou produire des effets moraux désastreux, et il doit moraliser. Et enfin, que la critique éthique est légitime et que la valeur éthique positive augmente la valeur artistique globale et que la valeur éthique négative diminue la valeur esthétique artistique globale. Que Diderot croit dans l'efficacité pragmatique de l'art, à propos de l'efficacité morale de la peinture, justement. Il dit « Ce n'est pas moi qui ignore ce qu'on peut m'objecter, le peu d'influence que les productions des beaux-arts ont sur les mœurs générales, leur indépendance même de la volonté et de l'exemple d'un souverain, des ressorts momentanés tels que l'ambition, le péril, l'esprit patriotique. Je sais que celui qui supprime un mauvais livre ou qui détruit une statue voluptueuse ressemble à un idiot qui craindrait de pisser dans un fleuve de peur qu'un homme ne s'y noyât. Mais laissons là l'effet de ces productions sur les mœurs de la nation, restreignons-le aux mœurs particulières. Je ne puis me dissimuler qu'un mauvais livre, une estampe malhonnête que le hasard offrirait à ma fille, suffirait pour la faire rêver et pour la perdre. » Donc il y a bien l'affirmation d'une efficacité pragmatique qui n'est peut-être pas visible au niveau d'une nation tout entière, mais qui est visible à un niveau au moins individuel, donc un micro-niveau, et après tout le macro, c'est que la suite du micro. Ce qui fait qu'il n'est pas pour autant un moraliste radical, c'est qu'il considère que l'œuvre, que la valeur artistique globale est faite d'une série de qualités qui sont d'ordre différent. La qualité proprement artistique, picturale, entrant en balance avec éventuellement la qualité morale. C'est-à-dire qu'une œuvre peut être réussie, picturellement réussie, en dépit d'un contenu moral inférieur. C'est par exemple ce qu'il dit quand, lorsque, parlant donc d'un tableau de Baudouin, il écrit « Encore si le mauvais choix du tableau était racheté par le dessin, l'expression des caractères, un fer merveilleux. » Donc vous voyez le dessin, l'expression, et de l'autre côté, la qualité discutable du choix du sujet, donc la qualité morale discutable. Bien, alors, c'est là que devrait se situer ce qui devait être mon exposé initial, c'est-à-dire la question de savoir comment moraliser en peinture, hein, c'est-à-dire de montrer quelle est la poétique au sens du fer pictural et quelle est l'esthésique au sens de la réception, au sens de l'effet produit sur le spectateur qui est solidaire de ce projet d'une théorie humaniste de la peinture. Donc je vais vous en faire grâce puisque j'ai tout repris dans le but de faire quelque chose qui est beaucoup plus synthétique. Ce que je voulais simplement montrer, c'est comment toutes ces manières de toutes ces descriptions très précises des tableaux que vous trouvez dans les salons mettent l'accent justement sur des points qui construisent un système très cohérent où le projet global est adossé à une poétique et à une théorie de la réception. Bon, on y reviendra éventuellement si vous voulez. Ce que je vais faire, donc toujours, puisque j'ai choisi de prendre de la distance par rapport à mon propos initial, c'était d'insister sur le fait que le maître mot de la moralisation par la peinture, telle qu'elle ressort des textes de Diderot consacrés à cet art, le maître mot, c'est le mot d'édification. Or, si je fais cette fois-ci un focus arrière, je vais essayer de vous montrer que le paradigme de l'édification dans lequel s'inscrit Diderot dans ses salons et dans ses essais sur la peinture n'est pas le seul paradigme de l'efficacité pragmatique de l'art dans l'histoire, et qu'il y en a d'autres. Alors, très rapidement, ce paradigme de l'édification auquel adhère Diderot a été historiquement extrêmement présent depuis les premiers théoriciens grecs de l'art jusqu'au XVIIIe. C'est par exemple ce qu'on trouve déjà chez Platon. Chez Platon, tout le monde connaît la raison pour laquelle il faut chasser le poète de la cité. Ce qu'on connaît souvent moins, c'est le fait que Platon accorde une grande importance à la poésie dans l'éducation du citoyen, notamment du gardien. Autrement dit, on retrouve tout à fait l'idée qu'on a aperçue chez Diderot, c'est-à-dire que l'art peut le pire comme il peut le meilleur. Et il peut le pire comme il peut le meilleur parce que, justement, et c'est là qu'on vient dans le cœur du problème, c'est parce que l'homme est un être mimétique. L'homme est un être mimétique qui, alors qu'il est confronté à de bons ou à de mauvais modèles, quel que soit l'art considéré d'ailleurs, pour Platon, que ce soit la poésie ou la peinture, eh bien, il sera tenté de faire sienne, de manière extrêmement insidieuse, les valeurs et les comportements qui sont véhiculés par les arts. Et vous trouvez donc chez Platon cette idée que les poètes qui provoquent, qui représentent les dieux de l'Olympe, qui se querellent, qui se trompent, qui se battent, etc., qui sont aveuglés par la colère ou bien qui tremblent devant le danger, eh bien, sont autant de mauvais modèles, hein, et qu'inversement, la représentation d'êtres valeureux en constitueront de bons. Je cite simplement ce passage de la République. Fatalement, c'est à nos émotions personnelles qu'ira profiter la substance de ces émotions étrangères. Quand on a nourri l'apitoiement dans ces dernières, il n'est pas aisé d'en contenir la force dans celles qui sont nôtres. Donc l'imitation des affections ne souffre pas d'exception, peut-on dire, hein. On devient ce qui nous est donné à admirer, et donc l'art est capable du meilleur comme du pire. C'est la raison pour laquelle, un, il faut se servir de l'art, deux, il faut le contrôler pour que l'art donne de bons modèles et pas de mauvais. Alors cette idée qui est extrêmement développée, très subtile chez Platon et chez beaucoup de penseurs de l'Antiquité, on va la retrouver au Moyen-Âge, à la Renaissance, au début de l'âge classique. Et vous voyez que l'œuvre dans ce paradigme de l'édification, tient ses pouvoirs de ce qu'elle représente, de ses contenus. Autrement dit, le pouvoir de l'art, et de la peinture en particulier, c'est le pouvoir de la référence. C'est le pouvoir, en l'occurrence, de l'image. C'est dans les contenus que les anciens font résider les vertus morales et politiques, d'ailleurs, de l'art. Quelques exemples. C'est à la naïve peinture des vices et des vertus, je cite, que Racine confie le soin de rendre vertueux le spectateur de ses pièces. C'est, selon Coypel, la représentation des faits glorieux des grands hommes du passé qui anime la vertu et lui donne de nouvelles forces. C'est à propos de tous les arts, de la représentation du moins, que Dubos, l'abbé Dubos, si important au début du XVIIIe siècle, affirme que, je cite, « la peinture des actions vertueuses échauffe notre âme, l'élève en quelque façon au-dessus d'elle-même et excite en nous des passions louables. » Bien, donc Diderot, dans ses salons, se situe clairement et de manière parfaitement orthodoxe dans ce que j'appelle ce paradigme de l'édification, avec toute la structure théorique qui est derrière l'affirmation de l'efficacité pragmatique de l'art, l'affirmation de l'importance de la mimésis, l'imitation pas seulement comme imitation de la réalité, mais imitation des sentiments de ce qui est donné à voir. Mais l'édification n'est pas le seul moyen par lequel a été pensée au cours de l'histoire une possible efficacité éthique de l'art. Il y en a d'autres. Hein. Donc je ne vais pas parler de tous, mais je vais parler de ce qui nous intéresse ici à propos de Diderot. Alors, je vais dire très rapidement un mot, je n'avais pas prévu de le faire, mais la précédente communication m'y invite, donc je vais appeler ça le paradigme de la Kalos Kagathia. Hein, Kalos Kagathia, le beau égale le bien. Bon. Alors, effectivement, ce paradigme, il consiste à considérer que l'expérience du beau est une expérience moralisatrice en tant que telle. Je dis bien l'expérience du beau, je ne dis pas l'expérience de la représentation de la vertu, mais de la beauté. Alors, c'est très compliqué parce que ça a une histoire fort ancienne qui repose au départ sur la conception métaphysique du beau, qui concevait, dans le cadre de ce qu'on appelle un peu techniquement la convertibilité des transcendentaux, que le beau, le bien et le vrai sont la même chose, que les hommes distinguent, parce qu'ils le voient en quelque sorte de point de vue, du point de vue de l'action, du point de vue de ceci, tout ça, mais c'est diffracté la même chose, hein, qui est une idée, au sens platonicien du terme, ou dans la tradition chrétienne, qui est en fait l'idée de Dieu qui se diffracte en différents... Mais fondamentalement, c'est la même chose. Donc dans ce contexte-là, quand vous faites l'expérience de la beauté, vous faites aussi l'expérience du bien et vous faites aussi l'expérience du vrai. Voyez. Alors c'est vrai que chez Diderot, il y a quelque chose comme un reste de cette conception métaphysique du beau. Et ce reste est particulièrement visible, effectivement, dans l'article Beau. Il est particulièrement visible dans plusieurs textes. Donc, j'ai essayé d'en retrouver à la pause pour vous en citer. Bon, je ne vais pas le faire, mais c'est très intéressant de voir la survivance de cette idée. Alors, je cite de mémoire, mais vous le connaissez mieux, lorsqu'il dit, par exemple, le goût, c'est la capacité de saisir le beau en même temps que le vrai et le bon. Vous trouvez quand même des phrases qui sont quasiment platoniciennes dans la bouche de Diderot. Hein ? Alors, c'est troublant, c'est troublant. Alors, dans la traduction de Shaftesbury, qui donne effectivement au début de... Il y a un enthousiasme, il a l'air de reprendre les choses en son compte en disant, mais effectivement, tout est là. Si vous touchez, si vous faites le beau, vous ferez le bien. Enfin bon. Le problème, je crois que c'est une piste à laquelle, qui séduit Diderot au point de, d'être finalement présente à titre de trace dans ses écrits jusqu'à fort tard. Là, je parle sous votre contrôle, mais en même temps, c'est une trace qui ne peut pas aboutir chez lui, en raison même de sa manière de comprendre le beau. Et là, donc, je pense qu'il serait bon de mettre en relation l'article beau, ou tous les textes où Diderot parle de beauté, avec un texte qui a joué un rôle absolument décisif dans l'histoire de l'esthétique, qui est les recherches sur l'origine de l'idée de beauté et de vertu, des idées de beauté et de vertu de Hutcheson, si je me souviens bien, 1737. Hein. Recherche sur l'origine de nos idées de beauté et de vertu. Parce que c'est le texte qui signe la fin de l'idée métaphysique du beau. Donc, la fin de l'idée selon laquelle le beau est une essence qui, pour la beauté sensible, se dépose dans les choses. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Alors, par quoi remplace-t-il ça ? Bien, par une idée au sens, avec un i minuscule, hein, je parle d'Hutcheson, le beau n'est rien d'autre que l'idée en nous. Voilà, c'est plus du tout l'idée avec une majuscule, c'est plus du tout une essence, c'est une idée. Mais alors, quelle idée ? Hein, Hutcheson, justement, quelle est l'origine de nos idées de beauté et de vertu ? Sa réponse, ce sera, et c'est là que je retrouve aussi l'idée de rapport chez Diderot, c'est que la beauté sensible, puisqu'il n'y a plus de beauté que sensible dans ce contexte-là, sinon métaphoriquement, pour dire une belle action, mais ça devient métaphorique, hein, la beauté n'est plus que sensible. La réponse de Hutcheson, ça consiste à dire le beau, c'est l'unité dans la diversité. Voilà, c'est l'unité dans la diversité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une belle forme géométrique, qu'un beau polyèdre régulier ? Eh bien, c'est un objet dans lequel il y a toutes sortes de détails, mais ça reste un polyèdre régulier. Qu'est-ce qui fait la beauté d'une fleur ? Eh bien, le fait qu'il y a une diversité de formes de pétales, enfin, que les pétales constituent une forme complexe, mais qu'elles sont chacune régulières. Et ainsi de suite. Bon, évidemment, très rapidement, c'est pas la peine de réfléchir très longtemps pour voir que c'est une idée séduisante, mais qui mène pas très loin. Vous me l'accorderez. Donc, je pense que l'idée de rapport chez Diderot tient un peu de cette... là, il faudra que vous me disiez, les spécialistes, si et comment il avait lu Hutcheson. Et quel type d'emprunt il pouvait lui avoir fait de ce point de vue-là. Bon, mais j'en reviens sur mon affaire de beau et de bien. Parce que qu'est-ce qu'on peut espérer de ces notations de Diderot concernant une espèce d'équivalence qui semble maintenir entre beau et bien, en dépit du fait que, si on creuse un peu... bon, l'idée de rapport fait le lien, vous allez me dire. Hein, c'est ce que vous disiez, d'ailleurs. Hein, le rapport, la morale est une affaire de rapport, comme le reste est une affaire de rapport. D'accord. Mais le problème, c'est de savoir quel est le rapport entre ces rapports. Le titre de l'ouvrage d'Hutcheson, donc je répète, hein, « Recherche sur l'origine de nos idées de beauté et de vertu », l'ouvrage est fait de telle sorte que vous avez une première partie sur l'origine de notre idée de beauté, l'origine de notre idée de vertu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le titre, vous avez encore les deux mots, mais qu'à l'intérieur de l'ouvrage, vous avez deux rubriques qui n'ont plus rien à voir, sinon analogiquement. Voilà, il n'y a plus qu'une analogie entre le beau et le bien. Et il n'y a plus la convertibilité des transcendantaux qui justifiait, si vous voulez, cette espèce de passage, etc. C'est pour ça qu'il me semble que cette voie, la voie, le paradigme de la Kaloska Gatia, est une voie qui ne peut pas mener très loin Diderot lui-même, en raison même de ce qu'il met sous ce nouveau, la nouvelle analyse qu'il met sous le nom de beauté, hein, y compris si tout ça est compliqué par des réminiscences et par des résistances peut-être hein, durables. Bien. Un troisième paradigme, en revanche, me paraît très intéressant concernant Diderot. C'est un paradigme qui est extrêmement, j'allais dire, c'est le paradigme de... Je parle toujours du paradigme au sens de ce qui... sous l'autorité de quoi une époque pense l'efficacité morale de l'art, ou la possible efficacité morale de l'art. Ce troisième paradigme, donc, j'appellerai le paradigme de l'expérience de pensée. Et je crois que c'est celui qui est pratiqué aujourd'hui. Enfin, je ne le crois pas, je le sais. Je m'explique. Le paradigme de l'expérience de pensée, c'est par exemple Martha Nussbaum. C'est par exemple Walton. Enfin, je pourrais vous citer toute une liste de théoriciens anglo-saxons qui se sont considérablement penchés sur le sujet depuis à peu près 30 ans maintenant. Alors, c'est quoi ce paradigme ? Ça consiste à dire que le bénéfice moral que nous pouvons trouver à l'art ne doit pas être pensé en termes d'édification, justement, comme c'était le cas dans le premier paradigme, mais en termes d'expérience de pensée, plus précisément, je développe, en termes de révision de valeurs, en termes d'entraînement moral et en termes de développement de l'empathie. Vous trouvez ça partout. Alors, en effet, ce que nous disent ces théoriciens, c'est que l'art a pour tâche morale, puisque vous voyez, ils reconnaissent une tâche morale à l'art, après, disons, un 19e siècle et un début 20e très autonomiste, la tâche morale de l'art, c'est de nous conduire à reconsidérer nos croyances et nos valeurs. Si vous réfléchissez à cette affaire d'importance de l'art et des valeurs du groupe, vous pourrez voir que, historiquement, l'art a pu avoir l'idée qu'il était là pour renforcer des valeurs partagées. Finalement, c'est le but de tout discours épidictique, qui est là pour renforcer la cohésion du groupe autour de valeurs partagées. Finalement, le discours de Malraux au moment du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, c'était un discours qui ne disait rien que tout le monde ne sache déjà, mais qui réaffirmait les valeurs autour desquelles, etc. La différence avec ça, c'est que dans le paradigme dont je parle, le paradigme de l'expérience de pensée, vous avez tout autre chose. C'est au contraire l'idée qu'il ne s'agit pas de renforcer des croyances morales. J'utilise croyances au sens anglo-saxon, hein, c'est-à-dire sans mettre rien de négatif là derrière. Hein. L'art serait un moyen de réviser nos valeurs, hein, de... non pas de les réaffirmer, mais de les remettre en cause. Et là, le discours critique contemporain, il suffit que vous ouvriez n'importe quelle revue consacrée à la peinture, aux arts plastiques, à ce que vous voulez, vous allez voir qu'il n'y a que des formules de type interroger, mettre en question. Alors, il faut interroger nos croyances, mettre en question notre opinion, faire reconsidérer nos croyances, questionner nos principes, etc., etc. Ce vocabulaire, enfin, je ne sais pas, moi, je ne peux plus ouvrir un truc parce que je sais tellement que je vais trouver ces mots que ça devient... c'est ad nauseum. Donc, le lecteur ou le spectateur est invité, et l'art est présenté comme ce qui invite le spectateur ou le lecteur, à confronter leurs croyances morales avec autre chose, hein, en vue de, alors en vue de les en faire changer, en vue de produire une espèce d'entraînement au discernement moral. Vous trouvez ça très développé chez Martha Nussbaum, notamment. Hein, l'idée que la confrontation à la littérature, hein, c'est tout le sens de son livre sur Love's Knowledge ou Poetic Justice, c'est tout ça, c'est l'idée que l'éducation morale est comprise en termes de développement des capacités à juger du cas particulier. Voilà. Et de ce point de vue, évidemment, la littérature offre un moyen supérieur à celui de la peinture en raison même de son médium propre. En raison même, là, puisque cet entraînement moral, en quelque sorte, est peut-être inscrit dans le texte même par le biais des différentes voies, par le biais de la complexité des situations, etc. Idée aussi, donc toujours dans ce paradigme d'expérience de pensée, de développer la sympathie et l'empathie pour les personnages, hein. Et là, vous avez énormément de travaux qui montrent comment l'expérience de la lecture, par exemple, et l'expérience d'une mise entre parenthèses provisoire de nos croyances, de nos désirs, de nos affects, et par le biais de l'imagination, nous pouvons donc déconnecter nos sentiments de l'action, auxquels ils sont ordinairement connectés, et nous permettre de simuler... Hein, de simuler, d'imaginer et de simuler affectivement des situations dans lesquelles les personnages sont plongés. Donc vous avez des analyses extrêmement complexes de Walton sur ce sujet qui vont tout à fait dans ce sens. L'idée étant que ça permet de comprendre l'autre, puisque ça comprend, ça permet au sens évidemment imaginatif de se mettre à sa place. Vous voyez, l'expérience de la lecture devient un devenir sujet de l'intrigue. Alors, bien entendu, vous voyez à quel point Diderot est proche de ces positions-là, de ce paradigme que j'appelle le paradigme de l'expérience de pensée. Il est indiscutable qu'il y a dans son œuvre de quoi anticiper sur ce paradigme contemporain. Et je crois que la conférence de Laurent de Chéry ce matin sur les contes de Diderot en était la monstration la plus convaincante. Hein. Regardez, c'était l'exposition des cas particuliers, la pluralité des narrateurs, la présentation de cas de conscience, de confrontation de points de vue, l'idée qui va avec qu'il n'y a pas de solution unique à des problèmes moraux. Hein. Que l'auditeur, d'ailleurs, est amené à changer d'opinion au cours de l'histoire, qu'il est amené, je cite ici des formules qu'a utilisées le conférencier ce matin, voir et revoir ses propres réactions, revenir sur ses principes moraux. L'auteur n'impose pas son point de vue, demande à chacun de se mettre en position délibérative, etc. etc. Donc, je pense qu'il est très clair que de ce point de vue-là, Diderot... Alors, ce que je veux dire, vous l'avez compris, c'est que ses travaux sur la peinture, ses salons, etc., relèvent d'un paradigme de l'émancipation, de l'édification, qui est un paradigme très traditionnel qui renvoie à ce qu'il y a eu avant, et que ce paradigme de l'expérience de pensée, il anticipe sur quelque chose qui viendra après. Donc, ça peut être mis au compte de la moelle. Bien. Évidemment... Si je prends encore maintenant un peu plus de recul théorique, je vais dire que c'est deux manières très différentes de penser la forme de l'action morale de l'art, hein, par l'édification ou par l'expérience de pensée, sont solidaires de deux manières de penser l'éthique. Je m'explique. Au paradigme de l'édification convient finalement une éthique de type arétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une éthique des vertus. Une éthique des vertus qui met au premier plan ces formes du bien inscrites dans le sujet lui-même, que sont le courage, la justice, la sagesse, la tempérance, si vous voulez, l'éthique aristotélicienne, pour faire vite. Hein. Et selon les éthiques arétiques, finalement, l'action à faire, c'est celle qu'accomplirait l'être vertueux. Si bien que on n'est pas du tout dans un type d'éthique déontologique à la manière de Kant, faire son devoir, hein, appliquer la fameuse règle, la maxime qui va permettre de régler l'action. Non, selon l'éthique hérétique, l'action à faire, c'est celle qu'accomplit l'être vertueux. Vous voyez, le modèle. Donc vous retrouvez cette idée de modèle, d'imitation, etc. Soyez courageux, juste, tempérant, et vos actes seront juste, tempérants, courageux. Autrement dit, l'éthique arétique va bien avec ce qu'on peut appeler un fonctionnalisme direct de l'art, qui considère que l'art agit directement par ses contenus. Et effectivement, on voit ça pendant une très longue période où on parle en effet des vertus au pluriel. Après, quand on parle de la vertu, notamment avec Kant, c'est le début de l'éthique déontologique, c'est tout à fait autre chose. Et on sait, dans le cadre d'une morale de type arétique, l'importance des notions de modèle et d'imitation. La référentialité de la littérature, de la peinture, permet la monstration de ces modèles, les pouvoirs respectifs de l'image, mais aussi des mots, leur donne une efficacité particulière qui est celle de la présence à la conscience. C'est très bien de vivre au milieu d'individus vertueux, mais quand on n'a pas cette chance, eh bien on a une manière de les avoir présents à la conscience par le biais de l'immersion fictionnelle. Bien, le maître mot est bien celui d'édification. Il s'agit de développer des qualités morales, de nous mettre dans des dispositions vertueuses. On devient vertueux en considérant des êtres qui le sont. Le ressort psychologique, c'est l'imitation. Donc, vous voyez, il y a une espèce de cohérence très forte de ce modèle, de ce paradigme, puisqu'un lien étroit unit les notions de vertu, d'exemple et d'intériorisation modélisante. Au paradigme de l'expérience de pensée correspond une toute autre manière de penser la morale. Il va de soi que ce paradigme convient bien à une époque ou à quelqu'un, Diderot, qui finit par penser que la morale ne peut pas être pensée au singulier. Et que la morale, entendue comme région des normes, des principes, des obligations, n'est plus possible. Ainsi entendu, comme la morale comme région des normes et des principes et des obligations, la morale est entrée en contradiction avec un grand mouvement de subjectivisation qui a débuté en Occident au début des temps modernes et dont Hobbes est un excellent représentant. Lui qui a très bien résumé cette subjectivisation du bien lorsqu'il écrivait dans le Léviathan: quel que soit l'objet de l'appétit ou du désir d'un homme, c'est ce que celui-ci appelle bien. Donc le bien, c'est ce que le sujet individuel, dans telle ou telle circonstance, ces circonstances évoluant tout au cours de son existence, appellera bien. C'est la subjectivisation du bien qui va d'ailleurs de pair avec la subjectivisation du beau. Pour d'autres raisons, je ne suis pas en train de reparler de la convertibilité des transcendantaux. Dans ce contexte-là, où il va de soi que ces biens ne peuvent plus être fondés sur une transcendance, où l'idée d'existence de normes objectives est repoussée, notamment par Diderot, eh bien, il s'ensuit ce grand scepticisme à l'égard de la morale, traditionnellement conçue, et par conséquent, à l'égard de tous ces modèles d'édification hérités du passé. En ce sens, les morales de Diderot, mais on a vu que ça veut dire effectivement les morales de Diderot, ça peut vouloir dire que la morale de machin n'est pas la morale de truc, enfin bon, tout ce qu'on dit depuis 3 jours, je ne vais pas revenir là-dessus. Les morales, c'est beaucoup mieux dans le cadre d'un monde instable. Les morales plutôt que la morale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Diderot en tant qu'auteur, vous avez effectivement une défense des morales en même temps que quelque part une défense de la morale qui a précédé dans un premier état. Comme vous l'avez très bien montré, vous l'avez très bien montré Gerhardt dans le premier exposé, vous avez quand même une évolution de l'idée morale chez Diderot. Donc je pense que les deux paradigmes qu'on retrouve chez lui sont des paradigmes qui sont tout de même assez difficilement conciliables, il faut quand même bien le dire, mais qu'il y a, peut-être moyen d'adoucir la contradiction en voyant que c'est plutôt en termes d'évolution qu'il faudrait le penser, et ce n'est pas un hasard si, dans les derniers salons, justement, Diderot parle plus du tout d'efficacité morale par édification. Ça disparaît complètement. C'est-à-dire que, et c'est ma conclusion, considérée dans son ensemble, l'œuvre de Diderot relève à la fois du premier paradigme, celui d'édification, et du troisième, de celui que j'ai appelé le paradigme de l'expérience de pensée. Plus précisément, cette œuvre se réfère, lorsqu'il s'agit de peinture et d'art plastique en général, alors plutôt lorsqu'il s'agit de peinture et d'art plastique, au paradigme de l'édification, quoique dans l'éloge de Richardson. Et le paradigme de l'expérience de pensée se retrouve dans ses fictions, ses contes, sa correspondance. On en a vu mille exemples au cours de ces derniers jours, je ne reviens pas là-dessus. Donc, pour terminer, je voudrais poser la question philosophique à laquelle tout ceci conduit, qui me semble pourrait presque être la question d'un autre colloque, c'est celle de savoir quel sens peut avoir le mot moral dans un contexte où il n'y a plus que des morales. Sans que, évidemment c'est ça l'essentiel, sans que les unes puissent se prévaloir d'une plus grande légitimité que les autres. C'est quand même ça l'histoire. Bien. Et alors je voudrais pour terminer simplement comparer pour donner du grain à moudre, de comparer cette situation avec ce qu'on appelle la morale provisoire de Descartes. Donc vous connaissez l'histoire, Descartes, dans le cadre du doute hyperbolique, c'est-à-dire de ce qui n'est pas le doute sceptique, qui est un doute radical, volontaire et destiné non pas à s'arrêter sur ce que Pascal appelait à propos de Montaigne le molle oreiller du doute, mais qui est destiné au contraire à trouver la certitude. N'oubliez pas que le doute cartésien, c'est un doute en vue de voir ce qui résiste au doute. Bon, la morale ne fait pas exception, donc tombe comme tout le reste sous le coup du doute, et même si c'est pour par la suite être en termes cartésiens mieux et plus solidement reconstruite. Mais ce qui m'intéresse dans Descartes, c'est le moment où il dit « Bon, c'est très bien, la morale, il n'y a que des morales, en gros, mais il y a une urgence de l'action. Voilà, il faut agir. Donc on peut dire « Oui, chacun pense que… » etc. Mais il faut agir. Voilà, il y a l'urgence de l'action. Et là, vous connaissez ce que Descartes appelle sa morale provisoire, dans l'un des articles, le premier article, est de suivre les lois et coutumes de mon pays. C'est-à-dire se contenter de réfléchir sans trouver de solution définitive, mais parce qu'il faut agir, eh bien, suivre les lois et coutumes de mon pays, parce qu'encore une fois, on n'a pas le choix. Voilà. Autrement dit, y a la solution cartésienne, qui, normalement, si on est cartésien, sera remplacée par une morale définitive, etc. Mais imaginons que cette morale définitive soit introuvable. Eh bien, suivre les lois et coutumes de mon pays, et puis la solution de Diderot qui nous laisse à la décision individuelle, finalement sans balise ni boussole. Voilà, je vous remercie.